Bienvenue dans ce jour de jeûne fédéral. On l'a encore pas évoqué ce matin. Vous vous souvenez que c'était le jeûne fédéral aujourd'hui? Ah, il y a quand même quelques petits oui. Aujourd'hui, troisième dimanche de septembre, est le jour d'action de grâce, de pénitence et de prière pour toute la Confédération helvétique, selon la date officielle définie en 1832 par la Diète fédérale. Jour d'action de grâce, de pénitence et de prière. Et concernant notre Église, aujourd'hui, c'est le 21e jour et dernier jour de jeûne et de prière. C'est notre dernier jour de ces 3 semaines qu'on vient de passer en jeûne et en prière. Alors la question se pose, de quel jeûne avons-nous jeûné? Est-ce que c'était un jeûne d'action de grâce? Est-ce que c'était un jeûne de pénitence? Qu'est-ce que c'est que la pénitence? Est-ce que c'était un jeûne de prière? D'abord, est-ce que le jeûne est une prescription biblique? Est-ce que Dieu demande à son peuple de jeûner? Est-ce qu'il nous demande, à l'ère du Nouveau Testament, de jeûner? Alors si oui, pourquoi et comment? En fait, la vraie question, est-ce que le jeûne du Nouveau Testament est le même que celui de l'Ancien Testament? Dans les 10 commandements, il ne me semble pas qu'il est question du jeûne. Alors, on va aller essayer de trouver des réponses. Et les réponses, en tout cas une partie, une bonne partie, on les trouve dans Matthieu au chapitre 9, les versets 14 à 17. Matthieu chapitre 9, versets 14 à 17. Alors les disciples de Jean, Jean-Baptiste, vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Pour bien comprendre le contexte, Jésus, il commence son ministère. Il a d'abord été baptisé par Jean-Baptiste et ensuite Jean-Baptiste a été mis en prison, pas parce qu'il a baptisé Jésus, mais parce qu'il a dit des choses à Hérode que Hérode n'a pas trop appréciées. Donc voilà, Jean-Baptiste, il est en prison. Mais il a des disciples. Il y a des gens qui continuent à le suivre. Et ça, c'est vraiment étonnant parce que Jean-Baptiste, quand il a baptisé Jésus, il a vraiment reconnu « Celui-ci, c'est celui qui devait venir. Celui-ci, c'est l'agneau de Dieu. » Il a dit, il a confessé ces choses-là. Et à ce moment-là, au moment du baptême de Jésus, la colombe est descendue et une voix dans le ciel a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Enfin, il y a eu plein d'éléments qui disaient « Mais Jésus est plus important que Jean-Baptiste ». Mais voilà, Jean-Baptiste est en prison, il n'est pas Jésus et il a encore des disciples. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu étonnant. Mais bref, après ces événements, au chapitre 5 à 7 du livre de Matthieu, on a le sermon sur la montagne. Et là, c'est quand Jésus il donne des enseignements, il donne des prescriptions, il explique les principes du royaume de Dieu. Des principes de paix, d'amour, de pardon, de mettre sa vie droite, alignée sur la volonté du Seigneur. Et les gens sont frappés par son enseignement. Son enseignement, il frappe les cœurs, il convainc les gens, c'est quelque chose de nouveau pour eux, et c'est quelque chose de libérateur. On voit qu'il parle avec autorité, il a beaucoup plus d'autorité que les juifs religieux, par exemple. Et après ce serment sur la montagne, dans les chapitres qui suivent jusqu'au chapitre 9, il n'arrête pas de démontrer la présence du royaume de Dieu sur terre. Comment est-ce qu'il fait? Il fait des miracles, il fait des prodiges. il fait des guérisons, il guérit le serviteur d'un centenier, il guérit la belle-mère de Pierre. À un moment donné, il est dans une barque, il y a une tempête, avec une parole, il calme la tempête. Plus tard, il multiplie des pains, plus tard, il marche sur l'eau. Il n'arrête pas de démontrer la présence de Dieu sur terre, le royaume, les effets du royaume de Dieu sur terre. Et en chemin, quand il fait tout ça, à un moment donné, au chapitre 9, toujours, les versets 3 à 7, il rencontre des scribes qui lui posent des questions, à qui il faut répondre. Ensuite, au verset 11, il croise des pharisiens qui lui posent des questions, qui l'interpellent. Et maintenant, un troisième groupe de personnes, les disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est en prison. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Apparemment, les disciples de Jean-Baptiste, ils ont la même discipline ascétique que les pharisiens. Et si vous vous souvenez de qui sont les pharisiens, c'est un groupe de personnes, c'est une secte en fait, qui a pris naissance dans la période intertestamentaire. Donc, à la fin de l'Ancien Testament, il y a les pharisiens qui tout à coup ont fait une secte. Les juifs religieux ont fait leur secte, les sadducéens pareil, et ça c'est entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté plein de lois qui n'existaient pas. C'était pas dans la loi de Moïse, c'était pas demandé par Dieu, mais ils l'ont fait quand même. Et une de ces lois, c'était de jeûner deux fois par semaine, les lundis et jeudis. Donc tous les lundis et tous les jeudis, les pharisiens, ils jeûnent. C'est comme ça. Tu dois jeûner, un point c'est tout. Comme ça, si tu jeûnes pas, tu te culpabilises et t'es pas bien. Donc tu jeûnes. Mais en fait, pourquoi tu jeûnes exactement? Tu le sais pas. Le jeûne de l'Ancien Testament, c'était... En fait, le mot jeûne, il est souvent associé à l'expression affliger l'âme. S'affliger, affliger son âme, c'est presque toujours en association avec ce mot jeûne. Donc quand il est question des gens qui s'affligeaient, qui affligeaient leur âme, on peut comprendre qu'ils prenaient un temps de jeûne. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Donc le jeûne, il servait à exprimer la peine, la tristesse. C'était aussi un signe de repentance. C'était aussi un signe d'attachement, un humble attachement à Dieu. On jeûnait aussi lorsqu'il y avait des crises nationales, pour renouveler notre totale consécration à Dieu. On jeûnait aussi dans des situations de détresse, comme la reine Esther, à un moment donné, qui a demandé à son peuple de jeûner pendant 3 jours, 3 nuits, parce que le peuple risquait d'être décimé. On peut aussi, dans l'Ancien Testament, les gens jeûnaient aussi pour rechercher la direction de Dieu, pour comprendre, pour recevoir son aide, savoir mais c'est où l'étape suivante, où est-ce que je dois aller. Et à la fin de l'Ancien Testament, donc du temps de Malachie, du temps de Zacharie, le jeûne était utilisé comme commémoration. Il y a 4 temps de commémoration principaux. Un de ceux-là, c'est par exemple la destruction du temple. Et chaque année, s'il y a un jour de jeûne en commémoration de cette destruction. Mais dans la loi de Dieu, dans la loi de Moïse, il y a un seul jeûne qui est prescrit, un seul jour de jeûne par année. Et c'est le temps, c'est le jour des expiations, c'est le Yom Kippour. On trouve ça dans Lévitique 16, 29. C'est le seul jour que Dieu demande à son peuple de jeûner. Tous les autres jeûnes, ils sont spontanés. Tous les autres jeûnes, ça vient de l'élan ou de la compréhension des gens. Mais ce qui est intéressant, quel que soit le jeûne, déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes disaient, sans une conduite juste, sans une conduite pure, sans une disposition de cœur bonne, le jeûne ne sert à rien. Et ça, vous pouvez le lire spécifiquement dans Ésaïe 58. Dieu dit les jeûnes qu'il aime et ceux qui n'aiment pas. Quand on jeûne par habitude ou par devoir, parce qu'on est obligé de le faire, Dieu, ça l'intéresse pas. Mais quand on a un cœur brisé, soit parce que nous, on a des choses à mettre en ordre dans notre vie, ou au contraire, on va jeûner pour pouvoir s'occuper des autres, délier les liens, délivrer les prisonniers, amener la guérison, la restauration, ça c'est un jeûne que Dieu agréé. Donc ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Alors, ce qu'on comprend avec les disciples de Jean, bon, ils en sont encore à ces jeunes-là, ce qui est normal, parce qu'ils vivent encore un peu dans la période de l'Ancien Testament, puisque l'œuvre de Jésus, elle n'est pas encore accomplie à ce moment-là. Donc, ils pratiquent le jeûne de l'Ancien Testament, mais en plus, ils pratiquent le jeûne des pharisiens, en tout cas deux fois par semaine, souvent, ce jeûne que Dieu n'a jamais demandé. Ce jeûne qui devient une servitude, une obligation. Et puis, ils voient les disciples de Jésus, Jésus qui enseigne avec autorité, qui fait des miracles, les disciples qui le suivent et qui ne jeûnent pas, et tout va bien. Leur vie va bien, ils portent du fruit, on voit qu'ils sont transformés, ils avaient leur vie d'avant, mais tout à coup elle est changée, on voit qu'ils vont mieux, puis ils se disent, et pourtant ils ne jeûnent pas, mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est quoi le truc? Je sais pas si ça vous arrive des fois, vous vous dites, mais je lis ma Bible tous les jours, je prie tous les jours, je vais à l'église tous les dimanches, je fais partie d'un groupe de maison, et il n'y a rien qui change dans ma vie. Ou quand je compare avec la vie d'un tel ou d'un tel, ben je vois que moi je suis tellement en arrière et l'autre personne a l'air d'avoir compris tellement de choses, mais qu'est-ce qui cloche? Mais qu'est-ce qui me manque? Mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Alors Jésus, il va donner l'explication, mais un peu comme à son habitude, c'est pas toujours facile à comprendre au premier abord. Il aime bien qu'on creuse, il aime bien qu'on cherche. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ?» Les amis de l'époux, dans certaines traductions il y a marqué « les invités », en fait, littéralement, c'est « les fils de la salle de noces ». Est-ce que les fils de la salle de noces peuvent s'affliger pendant que le marié est avec eux? Ces fils de la salle de noces, c'est les personnes qui étaient responsables pendant un mariage de faire en sorte que les lieux, que la salle où se passaient les festivités soient bien décorés, qu'il y ait la nourriture en suffisance, que la vaisselle soit renouvelée, soit propre, etc. Parce que ça durait 7 jours, donc il fallait des gens qui s'occupent de tout ça. Et pendant les mariages, pendant ces 7 jours, les convives étaient dispensés d'observer un nombre important de devoirs religieux. Il ne convenait pas d'avoir le marié en pleine noce avec nous pour faire la fête et de s'affliger l'âme et de jeûner. C'est complètement incompatible. Il y a un temps pour tout. Ça, on peut le comprendre. Mais là, en fait, Jésus, il est en train de dire quelque chose de beaucoup plus grand. Jésus, il est en train de jeter un pavé dans la mare. Il est en train de dire quelque chose d'absolument énorme. Jésus, il est en train de dire « Je suis l'époux ». Et c'était qui l'époux pour le peuple hébreu à ce moment-là? Dans l'Ancien Testament, il était question parfois de l'époux et de l'épouse. À ce moment-là, l'épouse, c'était Israël, au temps de l'Ancien Testament. Maintenant, on ne va pas polémiquer, mais je crois que l'Église en fait partie. Mais l'époux, ce n'était pas le Messie. L'époux, c'était Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est question du Messie. Le Messie va arriver, mais l'époux, c'est Dieu. Et Jésus est en train de dire, « Je suis l'époux ». Donc en fait, il est en train de leur donner la révélation, d'une part, je suis le Messie, je suis celui que vous attendez, mais le Messie n'est pas juste un homme qui vient vous sauver de l'Empire romain. Le Messie, c'est Dieu. Et Dieu est venu vous rencontrer. Dieu, qui est dans les cieux, est venu sur terre. Le ciel est venu rejoindre la terre. Et ça, ça dépasse complètement Israël. C'est international, c'est universel. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est révolutionnaire. Pour nous, ça fait 2000 ans qu'on le sait, c'est un peu facile, donc on a de la peine à se rendre compte que c'était comme ça choquant. Mais à l'époque, Dieu n'avait jamais foulé la terre, il l'avait créée, mais il l'avait jamais foulée. Et là, il s'est abaissé pour venir nous rencontrer. C'était complètement énorme. Mais tout en fait témoignait que c'était vrai. Les aveugles voient, les infirmes marchent, les démoniaques sont délivrés, l'eau est changée en vin, les tempêtes sont apaisées, etc., etc. Il y a trois signes, en fait, dans ce passage qui nous parle de Jésus comme l'époux, mais qui nous parle de quelque chose de bien spécifique. Il y a déjà ces enseignements. Ces enseignements, ils frappent les esprits, ça change les vies, ça change les cœurs. Il y a tout ce qui démontre au niveau des miracles et des prodiges, et il y a le vocabulaire qu'il utilise. Qu'est-ce qu'il utilise comme vocabulaire? Il parle d'un époux, il parle de noces de mariage. Ça nous ramène au mariage de l'Apocalypse, aux noces de l'agneau. Ça, c'est pour les temps de la fin, c'est des temps eschatologiques. Mais quand il parle un peu plus loin du vieil habit, du vêtement, le mot vêtement, le revêtement nouveau, les nouvelles robes, etc., ça fait partie du langage de l'Apocalypse, donc des temps de la fin. Et le vin nouveau, est aussi mentionné dans l'Apocalypse. Et à ce moment-là, l'Apocalypse n'est pas encore écrit. Mais ça nous projette bien plus loin dans l'avenir. Ça nous projette vraiment dans les lieux spirituels, de là où est notre espérance. Donc Jésus est vraiment en train de dire, mais ce qui est en train de se passer, rendez-vous compte en face de qui vous êtes. Le roi des rois est venu vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez jeûner? Est-ce que vous pouvez vous affliger encore? C'est pas possible. C'est pas possible de s'affliger. Je suis en train d'inaugurer une ère nouvelle. On était sous l'ancienne alliance, maintenant vous allez avoir une nouvelle alliance en mon nom. C'est l'ère des temps de la fin qui a commencé à ce moment-là, il y a 2000 ans. Et là, aujourd'hui, on est à la fin des temps de la fin. Et plus cette histoire de Covid avance, plus on peut voir qu'on est à la fin des temps de la fin. Mais on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront. Jésus ne dit pas « et alors ils devront jeûner ». Il dit « et alors ils jeûneront » ou « ils vont jeûner ». En fait, il est en train de dire « il n'y aura pas une obligation, mais pourtant ils jeûneront quand même ». Parce qu'il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent dans l'intention. Il y a une autre raison pour laquelle ils vont jeûner. Et Jésus utilise deux mots différents. Est-ce qu'on peut s'affliger quand on est en présence de Jésus, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut pratiquer le jeûne de l'Ancien Testament? Et ensuite, ils jeûneront. Et là, il utilise le mot « jeûner », qui montre bien la différence. Il y avait le jeûne de l'Ancien Testament, il y a le jeûne du Nouveau qui n'est pas le même. Alors pourquoi est-ce que les disciples de Jésus, et nous sommes les disciples de Jésus, pourquoi est-ce que les disciples de Jésus vont jeûner? Eh bien, c'est parce qu'ils ont goûté à sa présence. Ils ont goûté, ils ont vu comment c'est quand on est dans la présence de Jésus, comme tout change, comme l'atmosphère change, comme les vies sont restaurées, comme la mort s'en va, comme les maladies s'en vont, comme les servitudes s'en vont, comme les addictions s'en vont, comme les conflits s'en vont. Toutes ces choses mauvaises qui nous pourrissent la vie, tout ça, ça s'en va. Ils étaient tellement bien avec Jésus. Mais à un moment donné, Jésus leur a été enlevé. Il l'a prophétisé, il l'a dit. L'époux vous sera enlevé. Il a été enlevé brutalement parce qu'il a été crucifié. Mais c'était le plan de Dieu. Il a été crucifié parce qu'il s'est offert en sacrifice. Il est mort, il est ressuscité et il est monté dans les lieux célestes à la droite du Père. Et de là, il intercède pour nous. Donc Jésus est toujours vivant, mais il n'est plus en train de fouler la terre. Et nous, on se retrouve avec les prémices, on a le Saint-Esprit avec nous, on sait que Jésus est quand même avec nous en esprit, mais on ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. Et on vit toujours dans ce monde, avec toutes ces difficultés. Alors pourquoi les disciples jeûnent? C'est parce qu'ils ont goûté. Nous, pendant ces 3 semaines, on a goûté à la présence du Seigneur. Quand on a eu des temps de louange, Dieu était tellement proche. On a goûté à cette présence. Et qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Eh bien, on en aimerait plus. On aimerait que Jésus revienne. Parce qu'on sait que ce sera tellement mieux quand il va revenir. Alors, c'est l'élan du cœur qui fait qu'on se met à jeûner pour espérer son retour, pour espérer qu'il vienne établir son règne sur la terre, un règne de justice, un règne de paix, un règne d'amour, un règne de pardon, un règne de guérison, un règne de restauration. Et c'est ce qu'il va faire. Mais on jeûne parce qu'on aimerait que ça vienne. On jeûne parce qu'on a été satisfait dans sa présence, on est satisfait dans sa présence, mais dès qu'on en sort, on est complètement insatisfait. quand tu vois un bout de chocolat, que tu penses à un bout de chocolat, mais qu'est-ce que t'en as envie? Mais tant que tu l'as pas mangé, il va pas te satisfaire. Mais tu vas tout faire pour aller l'atteindre, ce chocolat. Tu vas compter tes 21 jours, puis le 22e, tu vas dire, je le veux. L'élan du cœur, il change. Les motivations, elles changent. On jeûne parce qu'on aime le Seigneur. On jeûne pour lui dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je comprends qui tu es. Je veux t'appartenir. Et j'aimerais me vider de ce qui est ma propre personne pour que toi, tu me remplisses de ta personne, de ton caractère, que tu me changes. Vous savez, on avait l'image du potier, cette terre glaise sur le tour du potier. Et Dieu qui façonne le vase que nous sommes, puis commence à mettre ses doigts dedans, dans la terre, pour élargir, et puis commencer à donner la forme au vase. Eh bien, c'est ce qu'on veut que Dieu fasse quand on jeûne. On veut qu'il nous façonne, comme lui il le veut, qu'il nous remplisse, qu'on puisse avoir un contenant pour le recevoir. C'est pour ça qu'on jeûne. On peut jeûner d'un jeûne de repentance. Quand on se rend compte qu'on a fait des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté, bien sûr qu'on peut jeûner pour demander pardon. Mais le jeûne, il ne pardonne pas. Le jeûne, il ne sauve pas. Le jeûne, il peut servir à dire, Seigneur, j'ai fait tout faux, je te demande pardon. Et si je jeûne, c'est pour te faire de la place. Maintenant, il y a des choses dans ma vie qui doivent changer. Cette habitude, il faut qu'elle change, elle n'est pas à ta gloire. Alors je jeûne pour que, à la place de tout ce que je pourrais me remplir et me satisfaire moi-même, j'aimerais que ce soit toi. J'aimerais que tu me donnes des révélations. J'aimerais que quand je lis ta parole, je puisse la comprendre et qu'elle transforme ma vie. Tu dis qu'elle est vivante et je sais que c'est vrai, alors montre-le-moi pour que ça s'applique dans ma vie. J'aimerais que quand je prie, je sente que tu es là. Voilà ce que ça peut être un jeûne de repentance. Jésus y donne des explications. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Personne ne va rafistoler un vieil habit avec une nouvelle pièce. Mais pensez déjà, pour aller rafistoler un vieil habit à partir de drap neuf, il faut déjà aller déchirer un morceau du drap neuf pour aller le mettre sur un vieux truc. En fait, Jésus, il est en train de donner des nouveaux enseignements, une nouvelle doctrine. Et il nous offre le royaume de Dieu, il nous offre le pardon, toutes ces bénédictions. Il a un amour tellement débordant, il nous donne tout, le pack entier. Et nous, on ira en déchirer juste une petite partie pour coller ça à nos vieilles habitudes. C'est comme si, quand je me convertis, j'ai mon ticket pour le ciel et ça me suffit. Ça, c'est un vieil habit. Alors je vais déchirer un petit bout des enseignements de Jésus. Ah oui, il faut prier, alors je prie un petit peu. Et puis je lis ma Bible de temps en temps. Ça, c'est aller déchirer un bout de tissu puis le mettre sur un vieil habit. Ça sert à rien. Le vieil habit, c'est les vieilles pratiques. C'est les pratiques qui doivent changer parce que Jésus, parce que Dieu lui-même a posé ses pieds sur la terre. Et la déchirure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à mon avis, la déchirure, c'est tout ce que les pharisiens ont ajouté et que Dieu n'a jamais demandé. Tous ces fardeaux qui pesaient sur les épaules des gens, si tu veux être un bon religieux, tu jeûnes le lundi et le jeudi. Point barre. Mais c'est des fardeaux, c'est difficile. Et il y en avait des lois, je ne sais plus combien, 600 et quelques. Voilà, 600. Il y avait 613 lois. Et la plupart de ces lois, Dieu ne les a jamais demandées. Et nous, on est pareil. Je dois prier une heure par jour, parce que dans la parole, Jésus a dit, vous ne pouvez même pas veiller une heure avec moi. Mais non, ça ne veut pas dire ça. Jésus, il est juste en train de dire, mais vous avez vu l'état de votre cœur. C'est important qu'on s'arrête dans nos journées pour prendre des temps d'intimité avec Dieu, que ce soit une demi-heure, que ce soit une heure, que ce soit 4 heures. C'est important de s'arrêter devant lui. Mais on peut prier toute la journée, on peut prier 24 sur 24. Notre esprit peut être en prière. C'est un élan du cœur, c'est pas un devoir. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Les outres, elles étaient faites en cuir, en peau de chèvre la plupart du temps. Et une peau de chèvre, quand elle est neuve, elle a une certaine élasticité, elle est extensible. Donc on mettait le vin dans ces outres, on les ferme bien et on laisse vieillir le vin. Et le vin, il fermente. Et en fermentant, il prend plus de volume. Et les outres, elles se distendent. Et le vin est bien conservé. Mais une fois qu'on consomme le vin, l'outre, on ne peut plus l'utiliser. Parce que, imaginez, vous prenez un élastique, vous tirez sur votre élastique, puis vous attendez longtemps. Puis au bout d'un moment, vous vous dites, je vais retirer avec la même forme, la même force. Et vous tirez un peu plus, qu'est-ce qui se passe? Il pète, parce que à force d'avoir été distendu, il arrive à son maximum d'élasticité, puis quand on redonne un petit coup, ça lâche. Eh bien, c'est la même chose si vous mettez du vin nouveau dans des outres qui ont déjà servi, qui n'ont plus leur élasticité. Quand le vin se met à fermenter, ça craque, ça pète. Et qu'est-ce qui se passe pour le vin? Eh bien, il se répand. Tu peux pas aller le récupérer. Quand il se répand dans la terre, tu peux pas aller le récupérer. Tout est fichu. L'outre, elle est fichue. Le vin, il est fichu. Ça sert à rien. De la même manière, on a besoin d'être des outres neuves. Il y a eu des anciennes pratiques qui nous servaient à comprendre les choses. L'Ancien Testament était bon, il permettait de comprendre des tas de choses. Comprendre qu'il y a un Dieu qui est vivant, comprendre qu'on est pécheur et qu'on a besoin de se repentir, comprendre qu'on a besoin d'un sacrifice, un sacrifice de sang pour être pardonné, comprendre que ce sacrifice, ça ne pouvait être que Dieu lui-même, parce que c'est le seul qui n'a pas péché. Comprendre que c'est pas un homme qui peut nous sauver. On avait besoin de tout ça. Mais maintenant c'est nouveau. Jésus est venu. Jésus a manifesté sa vie, sa présence, sa gloire. Alors nos outres, elles doivent être extensibles, elles doivent être nouvelles. On doit avoir une nouvelle mentalité, comprendre les choses avec le renouvellement du Saint-Esprit. Demander au Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence. Jésus fait encore une subtilité de vocabulaire quand il parle des outres neuves, du vin nouveau dans les outres neuves. En français, nouveau, neuf, c'est le même mot. Mais pas là. Pas dans ce que Jésus dit. Il dit le vin nouveau. Donc, nouveau au niveau du temps. C'est néos, nouveau. C'est une notion temporelle. Doit être mis dans des outres fraîches, nouvelles, dans le sens kairos, nouveau, d'un nouveau genre. Ça veut dire que le royaume de Dieu, il est nouveau dans le temps et il est nouveau dans son genre. Mais il n'y a aucune contradiction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est que Jésus, il a accompli l'Ancien Testament en lui-même. Et maintenant, tout est nouveau. Alors notre jeûne doit être nouveau. Notre consécration doit être nouvelle. Notre vie de prière doit être nouvelle. Il n'y a pas de place à la religiosité. Il y a la place pour la relation. Il y a la place pour l'amour. C'est vraiment ce qu'on a vécu pendant ces 21 jours. Ce jeûne qu'on faisait, c'était la base, le fondement, c'était on vient jeûner parce qu'on aime Dieu et on vient jeûner parce que Dieu nous aime. Dieu s'est sacrifié pour nous. Dieu nous aime et on va avoir un échange, on va le lui dire et lui va nous le dire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des gens qui ont été libérés de certaines choses, il y en a qui ont été guéris de certaines choses, il y en a qui ont des nouvelles compréhensions, il y en a qui lisent leur Bible autrement. Dieu nous a visités, Dieu a commencé à nous transformer. Et c'est à ça que sert le jeûne. Donc oui, le jeûne du Nouveau Testament, il est toujours valable. On jeûne parce qu'on soupire après Dieu. On jeûne parce qu'on désire sa présence. On jeûne parce qu'on désire son retour. On jeûne parce qu'on aimerait être un avec lui, être complètement transformé. On jeûne parce qu'on reconnaît que le roi des rois est venu sur la terre et qu'il s'est tellement abaissé, humilié pour se mettre à notre niveau qui nous rend capable d'avoir un cœur à cœur avec lui. C'est énorme. C'est énorme. Notre vie de prière en église, elle doit aussi être kairos, d'un nouveau genre. Elle doit changer. Pendant ces 21 jours, on a prié d'un autre genre. On ne s'est pas pris comme nos autres mardis soirs. C'était différent. Et on va reprendre les mardis soirs de prière. Mais on ne les reprendra plus comme on avait l'habitude avant. On va entrer dans des temps de prière différent. Que le ciel vienne rejoindre la terre. Que notre intercession ait toujours plus de puissance. Qu'on ait des moments où on prie pour nos autorités, qu'on prie pour notre ville, qu'on prie pour les habitants de la ville, avec puissance, avec efficacité, conduit par le Saint-Esprit. Il y a des moments où on a prié pour l'Église. Combien de fois, presque toutes les fois, mais combien de fois on a prié pour l'Église? On a prié pour toutes les générations. Pour ne pas oublier, par exemple, les personnes âgées qui sont dans les homes. C'est tellement important. Et on leur a dit, en tout cas au premier que j'ai pu aller voir, moi je leur ai dit, mais l'Église prie pour vous. Et c'est tellement important pour eux. On va avoir une prière aussi pour libérer les captifs quand des gens vivent des choses difficiles puis qui viennent nous dire, mais priez pour moi parce que j'ai tel problème, j'arrive pas à m'en sortir. On va prier avec efficacité. Parce que Dieu sera vraiment pleinement au milieu de nos compréhensions. C'est pas que Dieu avant n'était pas là, mais c'est que maintenant on a besoin de faire les choses avec une compréhension renouvelée, rafraîchie par le Saint-Esprit. Alors, on vous redira pour ces prochaines soirées de prière qui reprendront, mais la prière va reprendre, le jeûne va reprendre. C'était 21 jours. Ça ne veut pas dire qu'on va faire 21 jours tous les deux mois. Je crois pas. Mais qu'on va continuer à jeûner en Église, oui. C'est l'élan de nos cœurs. C'est quelque chose de normal. Un disciple, un vrai disciple de Jésus, logiquement, jeûne. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Seigneur, quand on lit tes enseignements dans la Bible, c'est pas toujours facile de les comprendre. Mais merci parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit pour nous éclairer. Moi, je te demande de donner encore un esprit de révélation à chaque personne dans cette salle, à moi y compris, pour qu'on comprenne toujours mieux ta parole. Je te demande que ces paroles, elles fassent leur œuvre dans notre cœur. Donne-nous l'humilité dont nous avons besoin là où ça résiste encore, là où on a de la peine à recevoir ces choses. Pour que tu puisses mettre ta liberté, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mets ta liberté dans nos cœurs, dans nos compréhensions, pour qu'on puisse avoir un vrai cœur à cœur avec toi. Chaque fois qu'on se met en prière, chaque fois qu'on se plonge dans ta parole pour la méditer, qu'on puisse avoir un esprit de révélation qui te fasse connaître, qui nous fasse comprendre ce que tu veux nous dire, qui fasse venir le ciel sur la terre. Qu'on ait ce point de contact avec toi, que tu puisses nous façonner. Nous sommes des vases d'argile, mais c'est avec douceur que tu nous façonnes. Qu'on puisse être rempli de toi. Seigneur, je te demande que nous puissions tous avoir des pratiques nouvelles. Que les mauvaises compréhensions s'en aillent. Viens nous renouveler, renouvelle nos cœurs, renouvelle nos compréhensions, renouvelle nos pensées. On a besoin de toi. Saint-Esprit, je te demande de venir renouveler notre intelligence. J'aimerais faire un appel, j'aimerais que les personnes qui se disent, ben tiens, moi il y a quelque chose qui bloque encore et j'aimerais bien que ça parte, j'aimerais mieux comprendre, j'aimerais avoir quelque chose de nouveau dans ma façon de m'approcher de Dieu, ben je vous propose de vous lever en témoignage devant Dieu. Oui, il y a un élan dans mon cœur qui dit, il y a quelque chose en moi qui doit changer, il y a quelque chose qui doit être renouvelé. Je vous propose de vous lever si vous êtes dans ce cas-là. Seigneur Jésus, merci, tu vois toutes ces personnes qui sont levées. Seigneur, moi je suis, comme à chaque fois, Seigneur, je suis levée avec eux, comme à chaque fois. Merci Seigneur. Seigneur, tu les connais chacune, chacun par leur prénom. Tu connais leur vie. Tu sais tout ce qu'elles ont vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est toi qui as inscrit leur nom sur leur livre de vie. Tu sais ce que tu veux pour leur vie. Tu sais quelle est la destinée que tu désires pour leur vie. Et je te demande qu'ils puissent entrer dans leur destinée. Avec toi, accompagné par toi, qu'ils puissent te recevoir pleinement, Seigneur, dans tout ce que tu as à donner. Pas seulement le salut pour le ciel, mais une relation vivante avec toi aujourd'hui. Seigneur, je te demande de donner les nouvelles compréhensions. Renouvelle l'intelligence de chacun par ton Saint-Esprit. Illumine les yeux de leur cœur. Je te demande de venir rafraîchir leur façon de méditer la parole. Qu'ils sachent comment méditer la parole. Donne-leur des chemins de prière. Pour qu'ils puissent être facilement dans ta présence. Donne-leur, Seigneur, donne-leur ce dont ils ont besoin. Qu'ils ne soient plus jamais les mêmes. Que l'Église soit transformée. Merci Seigneur pour chacun d'entre nous. Merci de venir nous rafraîchir par ton huile sainte, par ton huile Saint-Esprit. Et merci Père, Dieu de gloire, Dieu de toute éternité. Merci Père parce que toutes ces choses-là sont selon ta volonté. Merci pour ta faveur, pour ton amour, pour ta grâce, pour tes compassions. Tu es miséricordieux. Merci, merci pour ta bonté. Et bénis ces personnes, Seigneur. Merci parce que tu vois leur cœur et tu réponds à l'élan de leur cœur. Merci pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.